Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons entamer ce débat autour de, donc, d'un livre qui s'appelle « Cinéaste et producteur, un duo infernal ». Déjà un très bon titre, hein. On sent l'homme de cinéma. Un bouquin assez passionnant. J'ai eu la chance d'avoir en main un petit peu avant tout le monde. Et ça se, comme on dit, ça se lit comme un polar, parce qu'effectivement, ces rapports producteurs-réalisateurs sont souvent tumultueux, du moins pour les gens qui ont été interviewés. Frédéric nous expliquera un petit peu dans quelles circonstances les différents réalisateurs et producteurs ont été interviewés pour le bouquin. Mais avant de se lancer, je voulais vous rappeler cette anecdote qui est très éclairante par rapport au livre. On raconte, alors je ne suis pas historien du cinéma, mais on raconte que quand Hitchcock a fait le grand saut pour aller s'installer aux États-Unis, il avait un assistant qui voulait toujours travailler avec lui parce qu'il admirait énormément son travail et qui venait le voir en disant « Maître, je suis sûr que je suis un grand scénariste parce que toutes les nuits je rêve des trucs mais extraordinaires et voilà, mais le matin j'ai chaque fois oublié ». Et Hitchcock lui dit, écoutez, c'est super simple, c'est très important ce que vous dites là, parce que moi-même, je pratique ça. Vous mettez un carnet et un crayon sur votre table de nuit, et avec un petit peu de volonté, quand vous êtes dans votre rêve, essayez de vous arracher, et vous notez, mais quelques mots, et ce sera comme un fil rouge qui va vous permettre de vous souvenir de votre rêve le lendemain matin. Et si vous rêvez vraiment un truc formidable, eh bien, je pense que vous pouvez devenir un grand scénariste. Et le type, donc, met son carnet et son crayon, et il fait le rêve de sa vie, quoi. Le film parfait. Il arrive à s'arracher à son sommeil, il note quelques mots, et il se rendort heureux, sachant qu'il est riche, déjà potentiellement. Et le lendemain matin, il prend ses notes fébrilement, il avait écrit donc « Boy meets girl », un type rencontre une fille. Et effectivement, c'est le meilleur des scénarios. C'est en tout cas celui qui sert de fil rouge à ce bouquin, puisque vous pratiquez, Frédéric, vous et vos co-auteurs, abondamment la métaphore du couple. C'est d'ailleurs même en exergue du bouquin, si ce n'est, et comme ça on entre tout de suite dans le débat, que vous dites que couple réalisateur-producteur est à la base du cinéma, mais comme tous les couples, il n'a pas forcément vocation à durer. Aïe, divorce, rupture, tension. Donc, toutes les métaphores utilisées ne relèvent pas forcément du bonheur. Ah, je ne voudrais pas être réducteur parce qu'après vous dites qu'il y a quand même de temps en temps de belles histoires. Hein. Mais enfin, on sent dès le démarrage que le décor est posé, qu'on va au conflit. Votre collègue François Margolin a même des mots assez étonnants dans son introduction. En se posant la question, finalement, qui est le mieux placé pour faire un film, il dit, je cite, « Une chose est sûre, voilà, une chose est sûre, le réalisateur est le meilleur producteur de son film, financièrement en tout cas. Il est le seul à pouvoir décider en quelques minutes que telle scène n'est pas fondamentale pour son film, qu'il peut diviser le temps de tournage par deux ou accepter que son équipe sera moins nombreuse que prévu. Enfin, » bon, je ne vais pas lire tout le passage, mais Patrick est déjà heureux de m'entendre. Et puis vous, Frédéric, qui est un peu, avec François Margolin, le maître d'œuvre de cet ouvrage, vous, ce n'est pas Hitchcock que vous parodiez, c'est un de vos maîtres à penser, Bertrand Tavernier, puisque le chapitre introductif, vous l'avez signé « Attente », et si je me souviens bien, Bertrand Tavernier, il y a quelques années, quand il a fait un bouquin, une note de tournage sur L627, avait appelé le bouquin « Qu'est-ce qu'on attend ?» il disait que c'est la phrase fondamentale dans le cinéma, c'est que sur un tournage, on attend. Mais quelles sont les attentes? Alors là aussi, je veux un peu brutal et pour aller droit au débat. Il y a les attentes du cinéaste. Qu'attendent les cinéastes des producteurs de pouvoir faire leur film? Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Qu'attendent les producteurs dignes de ce nom? Ils attendent d'être épatés par les cinéastes avec lesquels ils travaillent. C'est pourquoi, dites-vous, la métaphore du couple est pertinente. Je veux bien, c'est peut-être un peu machiste quand même, parce que, si je résume, l'un travaille pour ramener l'argent, tandis que l'autre, tôt ou tard, finit par se faire baiser. Excusez-moi, hein, un petit peu brutal, mais est-ce que je résume bien l'ambiance du bouquin? Et donc, je vais juste, avant de vous céder la parole, dire qui est là. Enfin, ou bien vous direz chacun, avant de prendre la parole, vous direz qui vous êtes. Parce qu'on est enregistré en radio, donc ce sera encore plus simple. Donc, Frédéric Secher.
Non, mais ça me paraît une très belle introduction, en tout cas, une bonne mise en perspective, mais je pense que donc, le bouquin, en fait, c'est réuni différents témoignages, essentiellement de cinéastes, qui parlent de leur rapport avec des producteurs, et d'un producteur aussi, Patrick Sobelman, qui a travaillé avec Luca Bellevaux, qui aurait dû être là ce soir, d'ailleurs, il aurait aimé être avec nous, mais qui prépare son nouveau film, et donc il s'excuse de ne pas être avec nous ce soir.
Avec le producteur qui est présent ici, Patrick Kinney.
Et d'ailleurs, il m'a dit de te saluer.
Voilà.
Le point commun de tous les réalisateurs, c'est en fait de dire à quel point le rapport avec le producteur est important. Donc c'est un peu « je t'aime moi non plus », puisque c'est vraiment pas du tout un déni de l'acte de production, mais c'est au contraire de tous disent à quel point ce couple, ce duo est fondamental et comment il y a une part de création dans la production. Donc c'est pas simplement le réalisateur, le côté artistique, et le producteur, le côté financier. Je pense que tous les cinéastes qui témoignent dans le livre parlent de cet apport créatif que peut avoir la production. Et alors certains regrettent qu'aujourd'hui les producteurs n'aient pas autant de pouvoir que par le passé. D'autres ont eu des expériences plus ou moins heureuses ou malheureuses. Le duo qui paraît absolument parfait, c'est celui justement entre Patrick Sobelman et Luca Bellevaux. Mais ça pose aussi la question de la rencontre. Parce que par exemple, ils expliquent comment ce duo s'est formé. Il s'est formé par hasard en fait, puisque au départ, quand Luca Bellevaux préparait sa trilogie, c'était un autre producteur en France qui devait le faire. Et donc, puisque ce producteur n'a pas pu aller jusqu'au bout, eh bien, Patrick Sobelman et Luca Bellevaux se sont rencontrés. Et donc, parfois, il y a des duos qui... Cette question de rencontre entre un réalisateur et un producteur, je pense aussi, est très importante autour de la même envie d'un film. Et donc, comment on accompagne, comme réalisateur et comme producteur, le film. Plusieurs cinéastes et producteurs racontent, c'est Ntebin aussi, critique de cinéma qui a coordonné l'ouvrage avec nous, qui raconte que il y a souvent la métaphore du revolver, en tout cas dans le droit d'auteur en France et en Belgique, où on dit que tant que le contrat n'est pas signé, c'est le producteur qui tient le revolver, et dès que le contrat du film est signé, que le réalisateur sait qu'il va faire le film, eh bien, c'est comme si le producteur lui tendait le revolver, et qui est donc comme un passage de pouvoir. Donc il y a beaucoup de questions de pouvoir. Quel est celui qui a le pouvoir sur le film? Comment ça se passe? Comment se répartissent les rôles? La nostalgie du rôle des distributeurs aussi, souvent qui avait beaucoup plus de poids par le passé, et souvent une critique, en tout cas de certains comme Benex, qui critique ce qu'il appelle les guichetiers du cinéma. Il pense aux chaînes de télévision en France en particulier, quand il n'y a pas de rapport entre le réalisateur et la chaîne de télévision. Parce que ce que tous les réalisateurs souhaitent, c'est d'avoir un rapport. C'est pour ça que c'est si important, le rapport réalisateur-producteur, de quelqu'un qui les accompagne dans le film. Et donc il y a vraiment cette question de la complicité, de la confiance, du conflit aussi qui peut naître, et chacun a une vision différente mais très romanesque, parce qu'il y a plein d'histoires de cinéma, des coulisses de tournage et aussi des expériences y compris américaines, quand Bertrand Tavernier raconte comment il a travaillé aux États-Unis et comment là-bas par exemple quand on finit le premier montage, il y a 20 personnes du studio qui viennent voir le premier montage, qui lui disent tous « it's a masterpiece, c'est merveilleux », et puis le lendemain il y a 40 pages de notes de rectificatif à faire le montage. Donc il y a différentes approches, différents parcours, mais toujours cette idée qu'à la base du cinéma, il y a ce duo important et aussi cette question pourquoi certains réalisateurs sont devenus leurs propres producteurs. Et là, peut-être qu'on peut faire justement un pont sur ce qui se passe en Belgique aujourd'hui, parce que quand on voit le développement du cinéma belge, très souvent, les premiers cinéastes qui ont commencé à travailler, que ce soit André Delvaux, que ce soit Chantal Akerman, que ce soit Jean-Jacques Andrien, je parle des débuts du moment où il y a eu de l'argent du ministère de la Culture pour faire des longs métrages, ont éprouvé le besoin de créer leur propre structure ou avec des complices pour faire leurs films. Et il y a un tournant dans les années 80 et qui s'est accentué dans les années 90 où de plus en plus il y a eu une professionnalisation du métier et avec des duos justement qui sont nés à ce moment-là entre réalisateurs et producteurs. Et la situation actuelle, c'est beaucoup plus cette situation-là qui prédomine de duos qui existent et avec des fidélités. Il y a plein de personnes dans la salle aussi, à commencer par le producteur avec qui je travaille, Hubertois. Donc on peut avoir plein de témoignages aussi sur pourquoi il y a cette envie de travailler ensemble, comment les rencontres se font, comment il y a des confiances, des paris qui sont faits sur les films. Et c'est chaque fois des aventures, parce que chaque film reste une aventure de cinéma.
Je savais que c'était dangereux de faire une séance avec Frédéric, parce que là, il vient de me bouffer les 15 questions suivantes, parce qu'il donne les réponses avant qu'on ait posé les questions. Mais c'est bien, on a plein de thèmes. Enfin, voilà, je vous sens très consensuel, là, alors que le bouquin n'est pas complètement. Hein. Vous venez de nous dire, et c'est sympa, qu'effectivement, les producteurs, c'est important quand même, même s'ils sont méchants quelquefois ou qu'ils sont devenus des guichetiers. Et vous vous payez même, c'est la conclusion de votre texte introductif,
un truc qui a dû vous faire plaisir. Vous écrivez « Il faut sauver les producteurs ».
Oui.
Oui. Non, mais je peux sentir une certaine jouissance à cette phrase. Donc, on va d'abord passer la parole peut-être au philosophe du cinéma qui est Luc Jabon.
Tu y vas fort.
Mais non, mais parce que moi je suis sûr que tu as un éclairage à nous donner sur la question finalement qui est un peu sous-jacente à ce film. Qui réalise un film ? Réalise au sens philosophique du terme, qui rend réel un film ? J'ai noté que vous n'employez pas le mot réalisateur, vous parlez cinéaste, parce qu'on pourrait se dire que le producteur est la personne qui permet au film d'exister, en tout cas sur le plan matériel, si le cinéaste est celui qui lui permet d'exister sur le plan spirituel, pour employer les grands mots. Juste ?
Si tu veux, oui, bon. Mais c'est vrai que, d'abord, le livre est passionnant, je trouve. Ça, je rejoins ce que tu dis là-dessus, parce que souvent, on se dit, tiens, on va lire des interviews, ça va être un peu pesant, il va y avoir des redites, etc. et tout. C'est pas du tout le cas. Parce qu'on suit des trajets de cinéastes sur une longue durée. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans ce type d'ouvrage. C'est pas simplement une perception d'un moment où d'une forme d'immédiateté. Et une deuxième chose, je trouve, c'est que c'est vrai qu'il parle, tout le monde parle de couple, mais c'est quand même des couples bizarres. Parce que c'est des couples où je dirais, il y a une certaine... c'est pas très catholique, c'est ça que je veux dire. C'est pas des couples très catholiques quand on voit la manière dont ça se passe entre le producteur et le réalisateur, mais quand vient s'ajouter là-dessus un scénariste ou un co-scénariste, parfois l'importance de certains comédiens ou l'importance de certains techniciens, les choses commencent à prendre une autre allure sur une question qui est quand même fondamentale pour nous, qui est la question du désir. Parce que l'association fonctionne si les désirs sont communs. C'est toujours le même problème qui se pose à nous. Et ça, c'est une banalité de dire ça, mais ce qu'il est moins... c'est le fait que quand on entre dans ce désir, on entre dans une temporalité qui peut être parfois assez longue. Et toute la question est de voir comment le scénario, la réalisation, la production, la recherche des financements va pouvoir traverser tous les obstacles qui vont se retrouver face à un film à faire. Et ces obstacles, je dirais qu'il y a le scénario d'un film, mais il y a aussi le scénario de sa production. Et qu'on n'a pas toujours les clés de ce scénario-là. Et c'est là où la question du désir, la question du couple, la question de la solidarité, la manière dont on peut traverser ces épreuves est fondamentale. Parce qu'il y a toujours un moment où on peut, soit l'un, soit l'autre, craquer. Et à ce moment-là, les gros problèmes commencent, qui ne sont pas des problèmes liés à la création proprement dite. Et moi, ce qui me frappe dans le trajet de ces personnalités, qu'elles soient cinéastes ou producteurs, c'est à quel point aussi tout a changé en 10 ans. En 10 ans, en fait, on a vécu une mutation terrible et il a fallu pas seulement que les producteurs s'y adaptent, mais que les cinéastes s'y adaptent aussi. Et on est rentré dans une forme que j'appellerais de contextualisation de ce scénario. La question n'est plus simplement que le cinéaste fasse le film qu'il a envie de faire, c'est qu'il puisse le faire dans des conditions qui ne sont plus les mêmes que celles qu'on a connues il y a une dizaine d'années. Et qu'il faut s'adapter à ces situations. Et cette adaptation n'est pas du tout évidente aujourd'hui. Et pour terminer sur cette première intervention, je dirais qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Ce qui reste, c'est quand même la présence et le fait d'être en réalité devant des personnes à qui on peut parler, avec lesquelles on peut échanger des vues sur les projets à faire. Et que cette présence aujourd'hui, avec ce qu'ils appellent dans le livre, c'est assez curieux, ce qu'ils appellent les comités. C'est-à-dire, avant, il y avait quelques personnes qui décidaient qu'un film se faisait. Aujourd'hui, ce nombre de personnes qui décident qu'un film se fait s'est démultiplié. Et on s'est retrouvé devant des multiples comités qui interviennent en donnant leur lecture sur le film en devenir. Et moi, par exemple, quand je suis scénariste ou co-scénariste, je suis confronté en permanence à ces comités, donc à cette multiplicité de lecture du projet d'un cinéaste. Et la question est de comment naviguer là-dedans, sans tomber dans des compromissions sans fin, mais sans non plus se braquer de telle manière que le film pourrait ne pas se faire. Et c'est cette navigation qui n'est pas évidente aujourd'hui et que le livre traduit très très bien.
Je te laisse une petite phrase d'un publicitaire, David Ogilvy, qui disait « Qu'est-ce qu'un chameau ? C'est un cheval pur sang dessiné par un comité.
Très bien. »
Patrick Guinet, toi qui es à la tête d'Artemis Productions, qui est une des major compagnies belges, Artemis, c'est toujours une machine désirante.
Oui, parce que déjà mon parcours, moi j'ai jamais voulu faire de la production. Et je pense que par rapport à... Enfin, je reviendrai...
Bien fort.
Je disais donc que je n'ai jamais imaginé faire de la production au départ. Moi j'ai fait une école de cinéma avec l'ambition de devenir un jour un grand réalisateur. En étant persuadé...
C'est pas fini,
mais enfin bon. En étant persuadé en rentrant à l'INSAS que ça y est, tout était fait et que j'allais faire partie des cinéastes qui allaient marquer sur leur époque en Belgique. Et puis, les chemins que j'ai pris ont fait qu'à un moment donné, et on va parler du désir, j'ai croisé justement des vrais cinéastes. Des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que moi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas la personne la plus adaptée à ce qu'est la création cinématographique. Mais par contre, je pouvais aider ces personnes. Et notamment avec Frédéric qui est là, puisque c'est lui qui a fait que j'ai basculé de l'autre côté. Il est venu me voir un jour, j'avais créé, comme tu disais, on créait sa propre boîte de production quand on était réalisateur. Donc je sors de l'INSA, je crée ma boîte de production et puis je me dis je vais faire mon film. Mon film ne se fait pas pour des raisons XY. Et puis il y a un réalisateur qui vient me voir, il dit bah, t'as une boîte de prod, tu veux pas me produire le film? Et je lui dis bah oui, je sais pas trop comment on fait, mais ouais, on va voir. Et puis là, j'ai deux choses, deux révélations. Un, lui, c'est un cinéaste et moi pas. Et deux, j'aime plutôt bien produire. Mais produire dans le sens, pas uniquement chercher des fonds. Et je pense que par rapport à ces grands producteurs qui, à un moment donné, amenaient leur fortune, hein, parfois, souvent, ça me fait penser à cette phrase, comment est-ce qu'on devient riche dans le cinéma en commençant très riche. C'était ça le principe des producteurs. Bon, moi, j'avais pas un bal, donc mon premier film, d'ailleurs, j'ai hypothéqué la maison de mes parents, donc on reprend du désir pour pouvoir produire Maxi Bobo, donc c'est quand même quelque chose. Mes frères,
ça va, les
mais mes frères et sœurs m'en ont voulu un peu. Qu'est-ce que je disais oui, ça m'a fait comprendre aussi que un producteur aujourd'hui, quand on n'a pas les moyens, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est attention au droit d'auteur, etc., mais qui est aussi dans la création, qui est là pour aider à ce qu'un cinéaste puisse éclore, pour l'aider à aller plus loin encore, pour le remettre en question, pour qu'il se dépasse, et plus que d'être simplement celui qui va faire un chèque. Alors derrière, il y a tout le travail de recherche de financement, de passage par des comités, et de protection du cinéaste par rapport à tous ces comités, parce que tu disais, il y a l'histoire d'une production, on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière, mais en tant que producteur, on cache beaucoup de choses. On ne raconte pas tout ce qu'on peut dire sur un scénario quand
c'est
on passe dans certains comités.
Hein. On ment, bluffe, on joue au poker.
Exactement. Et donc, en tant que producteur, je pense que c'est devenu un métier qui est encore plus en prix du désir parce que c'est une envie de pouvoir créer avec le cinéaste en lequel on croit. Et d'aller le plus loin possible et de l'aider à aboutir.
Une question brutale avant de passer la parole au quatrième mais pas dernier intervenant, parce que je pense que tout le monde ici peut intervenir à un moment ou l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2010, presque 2011, de ton point de vue producteur, il y a les films que tu désires et les films avec lesquels tu gagnes de l'argent?
Oui.
Et c'est les mêmes?
Non. Non, mais voilà, ça fait partie de la réalité dans laquelle on vit. Si on veut continuer justement à pouvoir avoir du désir et à prendre des risques, comme on en parle beaucoup, c'est des cinéastes, les producteurs ne prennent plus assez de risques. Si, je pense que, et d'ailleurs en Belgique particulièrement, quand je vois tous mes confrères, je trouve qu'on est plutôt du côté du risque que du côté de s'asseoir calmement à voir les choses venir. Non, il y a des vrais des films que l'on fait par désir, avec du risque, avec enthousiasme, avec une volonté de se battre jusqu'au bout. Et puis, il y a une partie des choses qui sont plus de l'alimentaire, où on va coproduire, on va monter dans le financement d'un film, simplement parce que ça va nous rapporter un peu d'argent, où on espère que ce film va avoir un succès. Quoique ça, c'est jamais gagné. Et là, ça tombe bien, parce que là, je suis en train de faire un film
qui va avoir du succès.
Plus risque. Et le succès, on verra. Puisque j'arrive du Cambodge où je tourne avec Chantal Akerman. Voilà, c'est produire Chantal Akerman aujourd'hui, c'est quand même c'est un peu audacieux.
Tu n'as pas été assistant producteur sur son tout premier.
J'étais assistant réalisateur de Chantal, oui.
Assistant réalisateur, ouais. De plus en plus structuré. C'est quoi le paradis ?
Mais moi, je crois que je suis une réalisatrice polygame, en fait.
Dans le couple ?
L'idée aujourd'hui... Non, j'ai plusieurs producteurs. Et c'est en fait là où je pense que je trouve, moi, mon bonheur. Mais bon, ça a commencé il y a longtemps, par une grosse rupture. Puis j'étais célibataire pendant un moment, avec des aventures.
Des aventures d'un soir ?
Ouais. Et... voilà, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a quand même, les producteurs sont assez différents les uns des autres, et je trouve mon bonheur avec des gens différents. Et ce que j'essaie moi d'apporter aux producteurs, et c'est grâce à mes expériences de l'époque célibat, c'est essayer de coller au budget. Moi, je suis un fanatique du budget. Moi, j'aime savoir ce que coûte le film et ce que je dois dépenser, ce que je peux dépenser. Et donc, je suis celui sur le tournage qui dit bah non, ce plan-là, on le tourne pas parce que il est 18h et ils doivent rentrer chez eux, sinon ça fait des heures sup. Voilà, j'ai ce rapport-là. Et donc, j'essaie de dire à Patrick, par exemple, que je suis ça, mais il ne me croit pas encore. On n'a pas encore fait de film ensemble. Donc il ne me croit pas. Et c'est vrai que Patrick, je le vois, il pousse les réalisateurs plus loin. Enfin, je sais que parfois, quand il y a une scène qui est plantée, il revient et il ajoute un jour s'il faut pour la refaire, etc. Et ça, c'est ce qu'on attend. C'est en tout cas moi ce que j'attends d'un producteur, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette partie de dialogue avant. Moi, j'ai besoin d'être polygame parce que j'ai une sexualité féroce et que j'ai besoin de tourner beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait passer le micro à Hubert Toin, parce que je voudrais lui poser la question. Hubert Toin vient de produire d'ailleurs le film de Frédéric Secher, qu'on attend avec impatience, qui devrait être sur nos écrans au début du mois de mai, Hitler à Hollywood. Comment c'est de produire un théoricien du cinéma qui est en train d'écrire un bouquin sur les rapports producteurs-réalisateurs ? Est-ce que ce n'est pas complètement pervers comme situation ?
Je ne m'en étais pas rendu compte qu'il écrivait ses bouquins, parce que quand il est comme réalisateur, il est totalement, entièrement présent comme réalisateur. Donc là, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Et je pense qu'on a la chance d'être un couple intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas sans discussion, sans parfois... des accords, mais qui sont toujours discutés et toujours résolus. Et toujours résolus dans l'optique commune qui est le film, en fait, qu'on fait ensemble. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire du couple. C'est qu'il n'y a pas que le couple. Il y a un objectif, il y a un enfant. Et c'est l'enfant qui compte, en fait. Et le couple se réunit, en tout cas sur le cinéma, autour de l'enfant. Et je pense que c'est ça qui détermine cette relation aussi particulière, c'est qu'il y a cet enfant. Alors évidemment, il faut qu'on ait la même vision de l'enfant en question. C'est tout le travail qui doit se faire ensemble, de préparation, de complicité à construire aussi, puisque la complicité, ça ne naît pas du ciel, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit comme une relation, en réalité, de couple Donc on reste toujours dans la métaphore. Mais la confiance est essentielle parce que c'est par rapport à la vision qu'on a de l'objectif commun. Mmh. Et à un moment donné, on n'a plus le temps de se parler de l'objectif commun. Il faut qu'on l'ait tous les deux en arrière-plan de nos actions mutuelles et qui sont parfois contradictoires. Parce qu'effectivement, chacun a une responsabilité qui l'amène à devoir faire des choix parfois différents. Parce que la responsabilité entraîne de faire des choix. Parfois, il faut trancher. Et les choix différents vont dans deux directions. C'est effectivement, il faut jamais sacrifier le tout pour une partie. Et donc ça, c'est le rôle du producteur. C'est de veiller à l'ensemble, à la finition, à la bonne fin, comme on dit. Et donc ça passe parfois par dire... Il faut couper là, mais qu'est-ce qu'on va couper ? Donc qu'est-ce qui est le moins important ? Est-ce que c'est couper une scène qui n'a peut-être pas tant d'importance dans le film, ou bien mettre tout le film en danger ? Et le réalisateur de son côté, il a la responsabilité artistique, la bonne fin artistique du film. Et donc parfois ça passe par des intuitions, des choses moins explicites que des contes. Et donc... Oui. Il faut faire coïncider ça. Donc c'est parfois des conflits, mais...
On est curieux, en cas de conflit avec Frédéric, vous dit « Non mais attends, Benoît Jacquot a écrit un jour que tu ne pouvais pas couper telle scène ou... »
Non, il dit « Je ne veux pas couper », tout simplement. Et alors je dis « Mais bon, on ne coupe pas là, mais alors il faudra couper ailleurs, réfléchissons ensemble, couper. » Mais parfois c'est dans l'autre sens, hein. Parfois c'est de dire « Là, tu as coupé vraiment trop vite. Mm-hmm. » Je pense qu'il faudrait rajouter, au contraire. Parce que ça se passe pas forcément toujours à sens unique. Hein. Je pense que ça va aussi dans le sens où le producteur, qui souvent a plus d'expérience que le réalisateur de la fabrication du film, parce que par son statut, il est amené à embrasser plus de projets qu'un réalisateur qui mène chaque projet l'un après l'autre, il est amené à parfois aider le réalisateur à accoucher de ce qu'il a envie de dire, d'exprimer. Et donc tout ça font que effectivement, ce sont des rapports complexes. Mais ne pas oublier dans le couple l'enfant, ça me paraît essentiel.
Merci pour ce témoignage. Mais je témoigne que c'est vrai qu'il y a un moment où on ne discute plus. Je suis passé vous voir, si j'ose dire, en plein orgasme de la post-production image. Vous discutiez plus beaucoup, on était dans l'action. Revenons au bouquin, parce que c'est quand même la vedette de la soirée. En lisant, évidemment, selon la personnalité des gens interviewés, on se sent plus ou moins d'accointance. Je ne vais pas poser une question piège, mais si vous deviez mettre en avant un entretien, serait lequel ?
Deux. C'est Benoît Jacquot, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte, dans le sens où il parle des films dont il est... à l'initiative et des films de demande. Il ne parle pas de films de commande, mais il y a souvent des producteurs ou des acteurs qui sont venus le trouver, des grands acteurs du cinéma français, avec l'envie de travailler avec lui et comment il arrive à trouver sa place de création quand il n'est pas à l'origine d'un film. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il raconte là-dessus. Et la responsabilité pour lui du producteur n'est pas la même quand c'est le producteur qui vient le voir que quand c'est lui qui démarche avec un projet personnel vers un producteur. Et il considère que quand c'est le producteur qui vient vers lui, le producteur a la responsabilité de trouver les financements pour le projet, tandis qu'il a une plus de responsabilité quand c'est un projet personnel et qu'il va vers un producteur. Et l'autre, paradoxalement, c'est Patrice Lecomte, parce que je trouve que c'est très juste ce qu'il dit sur la production, sur l'importance des films qu'il fait, des budgets par rapport au succès public et la responsabilité qu'il ressent vis-à-vis des producteurs. Donc quand il a fait des tout petits films, c'est peu connu, Patrice Lecomte, il a fait un documentaire, par exemple, avec une équipe de 3 personnes, et donc là, il dit, dans ce cas-là, si le film n'est pas un succès commercial, ça n'a aucune importance, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu économique. Mais quand il y a un enjeu comme La guerre des mystes, par exemple, il disait qu'il était très mal, qu'il rasait les murs, parce que le film n'a pas eu le succès escompté, et qu'il le vit profondément comme une violence, et comme avec culpabilité par rapport au producteur. Il se sent responsable par rapport au producteur avec lequel il travaille.
Un entretien, moi, qui m'a un peu perturbé, c'est celui avec Jean-Jacques Benex, qui a un discours, je dirais, très intéressant, très articulé, vis-à-vis de la production, il n'aime pas. Hein. Enfin, c'est lui qui emploie le mot guichetier pour parler des producteurs. Et en même temps, on a l'impression que son rapport avec le public s'est dégradé au fur et à mesure qu'il gagnait ce que lui appelle de la liberté créative. C'est un exemple troublant qu'il soit dans le bouquin, parce que ça donne plutôt envie de dire Benex aurait bien fait de garder un producteur.
En même temps, il produit d'autres réalisateurs maintenant aussi. Il est devenu producteur de documentaires.
Ça, c'est une fausse réponse.
Je pense que Benex est un cas très particulier, parce qu'il a eu un énorme succès qu'on oublie, mais c'était vraiment le réalisateur star dans les années 80, et qu'il n'a plus eu par la suite les mêmes succès commerciaux, qu'il avait des très grandes attentes, et donc il est dans une difficulté dans son parcours. Forcément, ce qu'on dit sur la production, sur la réalisation, sur le cinéma, est teinté de ses propres expériences, on ne peut pas faire autrement. Et donc c'est quand même une approche très particulière. Néanmoins, je pense que c'est intéressant ce qu'il raconte sur l'évolution du cinéma.
C'est passionnant, mais quand on le lit, on a l'impression, on dit ah, il faut que je revoie ces films, ouais. Et j'ai essayé, franchement, ouais. Dur, hein.
Mais ce qui vient aussi à l'esprit quand on lit son dialogue et son interview, c'est que c'est bien celui, si on veut garder la métaphore qu'on a déjà utilisée, c'est bien celui qui défend le couple d'une manière la plus radicale, la plus dure, la plus pure, dans ce couple réalisateur-producteur. Et pour lui, ces 10 dernières années, ça a été une dilution de ce couple. Et ça, il l'a très visiblement très très mal vécu. Parce que si on poursuit encore ça plus loin, on peut dire qu'en fait ce couple aujourd'hui est dans un monde extrêmement païen. Et donc païen, ça veut dire qu'il a de nombreux dieux qui interviennent sur l'enfant qui va naître. Et comment on vit avec ces dieux? Comment fait-on pour passer à travers les mailles du filet pour... mener son œuvre à bien quand on est, à la manière de Benex, tellement crispé sur l'autonomie de l'œuvre, sur la manière dont cette œuvre doit suivre son désir et ne jamais céder sur ce désir. Parce que ça, il a des phrases extrêmement fortes là-dessus. Et donc, ces phrases radicales entraînent immanquablement, je ne dis pas du mépris, mais un rejet de tous ceux qui pourraient être obstacles à la fabrication de son œuvre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il se lance dans le documentaire. Parce que dans le documentaire, il retrouve cette capacité pure de pouvoir faire vraiment ce qu'il a envie de faire et d'aller au bout de son désir. Et ça, c'est un débat dans lequel nous-mêmes et notre cinématographie belge est plongée jusqu'au cou. C'est comment garantir, à travers toutes les structures qu'on a mises en place et qui fait qu'on est dans un système de cinéma subventionné, par rapport à l'interview de Benex, il y a celui de Guédiguian, qui, lui, a trouvé une réponse en formant ce collectif à travers la maison de production Agathe, qui est quand même, ça je vous invite vraiment à lire, c'est une expérience hyper intéressante, avec ce qu'il appelle une éthique du collectif. Ce qui est quand même très très particulier pour faire fonctionner une maison de production où ils se produisent parfois eux-mêmes et ils produisent d'autres films. Donc il y a chaque fois eu des réponses particulières à un contexte général dans lequel on est tous immanquablement amenés et dans lequel on doit travailler, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Parce que Benex a donné des réponses, Guédiguian en a donné d'autres, Benoît Jacquot aussi d'autres, etc. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on peut chaque fois donner des réponses, on peut chaque fois trouver des nouveaux leviers qui nous permettent de trouver notre place dans notre cinématographie.
Je sens que Patrick a envie de parler, mais comme beaucoup de gens sont venus sur base de l'affiche du film, ou du débat du moins, pour écouter Frédéric Fontaine, il faut absolument qu'on passe le micro à Frédéric qui était annoncé. Et Frédéric, toi tu es à Patrick Kinney ce que Lucas Bellevaux est à Patrick Sobelman, à peu près. Donc témoignage d'un couple fidèle à côté du polygame que j'ai près de
ouais.
Moi.
Bah. Je crois qu'il y a une tradition qui dit qu'il y a deux types de couples. Il y a les couples où tout se passe bien, les couples d'amitié, on dit tiens, on va boire un verre, machin, et tout va bien. Et il y a d'autres couples où c'est plutôt orageux. C'est ceux où justement c'est plus compliqué. Parce que faire un film, ça reste quand même quelque chose de. C'est une œuvre de création, donc forcément c'est un risque total. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire à l'avance. À quoi va ressembler un film. Beaucoup de gens essayent maintenant de se rassurer avec certains castings ou avec des choses comme ça. On se dit, voilà, on sait que le film va être plutôt moins comme ça. Un vrai film, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant et qui est une œuvre qui naît qui a son propre univers. Et c'est pour ça qu'il y a un moment un couple qui va essayer de faire naître ça, mais ça se fait souvent de manière, comment dire, orageuse, quoi. Donc pour moi, j'ai entendu les mots de dialogue. Parfois, on se hurle dessus. Parfois, on ne se comprend pas. Parfois, c'est... Mais ça fait avancer les choses. Et pour moi, les gens qui m'ont le plus fait avancer dans ma vie, c'est les gens qui m'ont vraiment fait chier. Et Patrick, c'est un vrai ami. Il m'a fait chier, mais fort. Et je parle pour des bonnes raisons, quoi. Je veux dire... Parce qu'une œuvre créatrice, c'est... Ça doit naître parfois... La Terre est née dans des volcans, quoi. Je veux dire, c'était pas un truc tout doux, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au dialogue. Voilà.
Oh, Patrick.
Oui, je peux être chiant. Non, il y a juste un autre élément que je voulais aussi dire par rapport à la production, c'est que Hubert disait qu'on connaissait mieux peut-être encore la production parce que on produit plusieurs choses en même temps, etc. On a aussi à gérer des réalisateurs tous différents. Moi, j'ai parfois l'impression d'être plus dans un cabinet de psychologue que comme producteur. Parce que c'est assez terrible, hein. Vous ne vous rendez pas compte, vous, les auteurs. Mais quand on a un cinéaste, un Frédéric Fontaine qui vient, et puis j'ai vu Alain ou un Stéphane ou un Gilles, c'est tous des gens qui sont très, très, très différents, qui ont leur propre univers, qui ont leur propre manière d'exprimer les choses. Et c'est ça qui est la plus grosse difficulté pour moi en tant que producteur. Et c'est pour ça aussi que dans le bouquin, on dit qu'il y a des producteurs pour certains cinéastes, mais aussi il y a des producteurs pour certains films. Tous les producteurs ne pourraient pas produire certains films, pas que pour des raisons financières, comme en parlent certains, mais aussi parce qu'on n'est pas dans... On n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de dialogue. Mais c'est toujours très, très compliqué d'arriver en tant que producteur, et c'est ça, je crois, qu'on essaie tous de faire en tant que producteur, c'est d'arriver à rentrer dans l'univers du cinéaste et de se mettre à sa place, d'arriver à trouver les bons mots, la bonne manière de pouvoir l'aider à aller le plus loin possible. Et parfois, ça passe par l'orage, et parfois, ça se passe aussi très, très bien, et on arrive à dialoguer tout à fait sereinement, mais c'est très compliqué.
Est-ce que c'est de là que vient cette idée, alors, de l'intérêt d'une certaine fidélité? C'est que si tu connais l'univers d'un cinéaste avec lequel tu as travaillé, même si vous vous êtes engueulé, ben à la suivante, tu as gagné un peu de temps ou...
Moi, je suis plutôt partisan de continuer le travail, et qu'en travaillant ensemble, on va de plus en plus loin. Après, là, qui trouve qu'en effet, je ne sais plus c'est qui, je pense que c'est Benoît Jacquot, je crois, qui dit ça, qui dit qu'il faut changer pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir aller plus loin, et sinon, quand on est dans un couple, on se complaît là-dedans et puis on ne se dépasse pas. Mais il y a l'effet inverse, en effet. C'est aussi, on se comprend très, très bien, donc on sait pousser l'autre de plus en plus loin. Et ça, c'est aussi très intéressant quand on est ce couple infernal producteur-réalisateur.
Frédéric, qui désire qui, en fait?
Je pense que l'idéal, c'est que chacun désire l'autre. C'est comme ça que les films peuvent se faire. C'est-à-dire qu'il... Pour reprendre ce que disait Hubert, le même désir de film. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que le couple est solide. C'est que, quels que soient les obstacles qui peuvent surgir, parce qu'il y a toujours... Il y a toujours des obstacles qui peuvent surgir quand on fait un film, mais si on a le même horizon, si on a la même envie au départ, eh bien on peut surmonter tous les obstacles par le dialogue. Alors parfois, il peut être plus ou moins orageux, il peut y avoir plus ou moins des difficultés, mais si on a la même envie à la base, s'il n'y a pas de malentendu sur ce même désir de film au départ, je pense que tout est possible. Et que c'est ça justement à la base, c'est qu'il faut qu'il y ait le même désir du film au début. Et que parfois, quand les choses se passent très mal, c'est parce qu'il y a eu un malentendu à la base de la part du producteur ou du réalisateur. Je pense que ça peut être des deux côtés selon les cas. Et qu'à ce moment-là, effectivement, quand les obstacles se présentent, ça peut très mal tourner si on n'a pas clairement en tête ce qu'on veut faire au départ.
Aussi dire, parce qu'il a dit les deux cinéastes qui sont intervenus. Ouais. Moi, celui que je préfère, c'était Bertrand Tavernier qui dit sur des films américains, je ne me faisais payer qu'à la fin du tournage quand on était sûr qu'on n'avait pas dépensé. Je trouvais ça plutôt pas mal à mettre en place. Et l'autre chose, il dit qu'à un moment donné, c'est une blague, et qu'à un moment donné,
qu'il prenait.
Ouais, mais pour un producteur. Non, mais ça, c'est aussi, c'est toute la difficulté dans la relation aussi avec le producteur, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans l'envie de... Parce que c'est vraiment ça, le désir, l'envie que le cinéaste aboutisse, Mais il y a quand même le nerf de la guerre qui est l'argent qu'il y a derrière.